les crises existentielles tiennent la population mondiale en haleine. L'imminence d'un crash financier est pratiquement sur toutes les lèvres. Beaucoup sont déjà en état de choc, car le monde a déjà été ébranlé par plusieurs crises financières, comme le Vendredi noir de 1929 ou la crise de 2008. À chaque fois, des personnes ont perdu tous leurs biens. Et maintenant, le crash le plus important et le plus lourd de conséquences est sur le point de se produire. La gigantesque montagne de dettes sur laquelle sont assis presque tous les pays du monde ne laisse rien présager de bon. Mais pourquoi y a-t-il des crashs financiers mondiaux? Et pourquoi celui qui vient serait-il le plus grand et le plus lourd de conséquences? Quelles en sont concrètement les conséquences? Et quelles en sont les causes? Qui est le plus touché? Qui en tire profit? Est-ce que cela a un rapport avec le Great Reset? Où cela va-t-il nous mener? Peut-on encore l'arrêter? C'est sur ces questions que nous nous pencherons dans cette émission.
L'éclatement d'une gigantesque bulle d'endettement fait partie du Great Reset.
La création en 1913 aux USA de la Fed, c'est-à-dire la Réserve fédérale, en tant que système bancaire privé, a conduit à la mise en place d'un cartel bancaire opérant à l'échelle mondiale. Le monopole de la création monétaire a été confié par la loi à une poignée de banquiers influents de Wall Street. L'installation de la BRI, c'est-à-dire la Banque des règlements internationaux créée en 1930, ainsi que deux organisations spécialisées de l'ONU, à savoir le FMI et la Banque mondiale créée en 1944, a permis d'étendre encore plus leur pouvoir. Ils accordent des crédits colossaux à partir de rien sous forme de monnaie fiduciaire et acculent des peuples entiers à la ruine avec leurs exigences de remboursement. L'agenda 2030 de l'ONU est l'ultime accélérateur de cette évolution. Il exige en effet de ses États membres qu'ils gèrent à coups de milliards des crises mises en scène à l'échelle mondiale. Selon l'économiste Ernst Wolf, cette gigantesque bulle d'endettement, gonflée artificiellement, est bien plus importante que la somme de toutes les ressources mondiales, infrastructures, ressources minières, etc. Elle ne pourra donc plus jamais être remboursée. L'éclatement de cette bulle d'endettement, préparée de longue date et délibérément mise en place, doit marquer le début d'une réorganisation complète à l'échelle mondiale, le Great Reset. Celui-ci prévoit l'expropriation totale et la mise sous tutelle, voire l'asservissement des citoyens au bénéfice des oligarques financiers.
Le Great Reset et l'agenda 2030.
Le Great Reset est le nom donné à l'agenda du FEM et des organisations non gouvernementales affiliées, les fameuses ONG, pour s'approprier le pouvoir mondial. Les ONG sont contrôlées par des oligarques financiers. Ceux-ci possèdent les banques centrales qui dominent le système monétaire depuis plus de 100 ans. Par l'intermédiaire de leurs gestionnaires d'actifs comme BlackRock et Vanguard, ils amassent sans travailler des fortunes colossales ainsi que de l'or, des groupes industriels, du gaz, du pétrole, des matières premières et des infrastructures publiques. Ils corrompent les principaux décideurs politiques, industriels, militaires et judiciaires du monde entier et les lient à leur gouvernement de l'ombre, comme le groupe Bilderberg, le Council on Foreign Relations, les réunions du FEM à Davos et autres. Ce cercle, par l'intermédiaire de politiciens inféodés, fait appliquer l'agenda 2030 du FEM et de l'ONU par des lois qui déterminent le destin. Celles-ci conduisent à leur tour à l'expropriation des peuples par le biais d'impôts ruineux et d'exigences de compensation des charges, et en outre à l'asservissement total de tous les peuples par l'argent numérique programmable, le contrôle de la nourriture, de l'énergie et de la santé, ainsi que par les technologies de surveillance.
Qui serait touché par l'éclatement de la bulle d'endettement? Qui en profiterait?
En 2005, la loi sur les faillites a été changée aux USA. Depuis lors, les clients ne peuvent plus récupérer leurs avoirs, même en cas de fraude bancaire. Tous les actifs sont incorporés dans la masse de la faillite. Mais cette modification de la loi ne concerne pas tous les créanciers, notamment les quelques créanciers privilégiés, c'est-à-dire ceux qui bénéficient de garanties. Il s'agit de banques fondatrices de la Fed ou de leurs filiales, dont la banque JP Morgan. Lors de la faillite de Lehman Brothers en 2008, par exemple, seule la banque JP Morgan a vu ses actifs restitués malgré des transactions financières frauduleuses. Le juge du procès de l'époque a expressément déclaré que JP Morgan faisait partie du groupe protégé. Il apparaît ainsi clairement que, dans le dos de la population, la législation a été modifiée de manière à ce que le clan autour de la Fed puisse survivre à n'importe quel crash bancaire, tandis que tous les autres devraient perdre l'intégralité de leurs actifs.
La monnaie fiduciaire, comment la bulle d'endettement s'est formée ?
Le 23 décembre 1913, le Federal Reserve Act a introduit aux États-Unis le système de banque centrale privée Fed. Il est devenu un modèle pour l'établissement ultérieur de banques centrales et de banques d'émission dans le monde entier. La Fed est un cartel de grandes banques qui détient le monopole de la création monétaire. De simples opérations comptables permettent de créer de l'argent sous forme de crédit à partir de rien. Ce principe de monnaie fiduciaire, c'est-à-dire de création d'argent à partir de rien, permet aux banques affiliées de multiplier de la même manière l'argent nouvellement créé. Mais jusqu'au remboursement complet de ces crédits fictifs, des intérêts et des intérêts composés sont encore réclamés. En raison du monopole de la création monétaire, les fonds nécessaires doivent également être obtenus auprès de la Fed et de ses filiales sous la forme de nouveaux crédits. Ce prêt d'argent à intérêts et intérêts composés crée une gigantesque bulle d'endettement. Conséquence, alors que la quantité de biens dans le monde n'a que quadruplé au cours des 30 dernières années, la quantité d'argent a été multipliée par 40.
La Fed, un système financier incroyablement audacieux.
Depuis la création de la Fed en 1913, la loi permet aux banquiers privés d'accorder des crédits sans réserve ni garantie, comme une simple opération comptable, créant ainsi de l'argent à partir de rien. En revanche, les clients des banques doivent déposer leur patrimoine en garantie de cet argent de crédit sans valeur et même payer des intérêts et des intérêts composés jusqu'au remboursement complet du crédit. Et ce, à chaque fois, c'est-à-dire pour le remboursement et les intérêts, avec des actifs réels. Dans le cas des États-Unis, l'État et donc les citoyens doivent désormais verser 1 000 milliards de dollars par an aux banksters pour rien. Ce tour de passe-passe de la monnaie fiduciaire a permis aux grandes banques de s'emparer de la quasi-totalité de la richesse nationale américaine. Le magnat de l'automobile Henry Ford a déclaré fort à propos il y a une centaine d'années: si les gens comprenaient le système monétaire, nous aurions une révolution avant demain matin.
Qui sont les pères fondateurs de la Fed ?
Paul Moritz Warburg est considéré avec John D. Rockefeller et Nelson Aldrich comme le principal initiateur de la banque centrale américaine Fed, fondée en 1913. Les Warburg sont considérés comme la deuxième famille de banquiers la plus importante au monde, derrière les Rothschild. C'est en effet dès 1798 que la banque Warburg a été fondée à Hambourg par les deux frères Moses Marcus et Gerson Warburg, à peu près à la même époque que la banque des Rothschild. En 1814, les Warburg devinrent l'un des premiers partenaires commerciaux de Rothschild à Londres. Moritz Warburg a fait sa formation chez les Rothschild en Italie et à Paris. Son fils, Max Warburg, a effectué une partie de sa formation à Newcourt, le quartier général des Rothschild à Londres. Des années plus tard, en 1910, Nelson Aldrich et des dirigeants de banque de J.P. Morgan, Rockefeller et Kuhn N. Loeb, se sont retirés pendant 10 jours pour une réunion tenue top secret sur Jekyll Island, dans l'État américain de Géorgie. Nelson Aldrich était un homme politique de haut rang, mais aussi un associé de la banque d'investissement J.P. Morgan et le beau-père du richissime magnat du pétrole John D. Rockefeller, J.R. Parmi les dirigeants présents sur l'île Jekyll figurait Frank van der Lip, président de la National City Bank de New York, qui était lié aux Rockefeller, Henry Davidson, associé principal de la société J.P. Morgan, Charles Norton, président de la First National Bank de New York, et Andrew Piatt, un économiste de premier plan de Harvard. Paul Moritz Warburg de Kuhn, Loeb & Co. a présidé la réunion et rédigé les grandes lignes de ce qui allait être appelé le plan Aldrich, un plan de réorganisation du système bancaire et monétaire, pierre angulaire du futur système de la réserve fédérale. Le manoir où ils s'étaient réunis appartenait à l'homme considéré à l'époque comme une araignée dans la toile de l'industrie financière, John P. Morgan. Le secret était donc nécessaire pour préparer avec succès cette manœuvre unique contre le peuple américain, La démocratie est la grande finance concurrente. Aussi habilement et secrètement que le plan avait été élaboré, la modification de la loi fut tout aussi habilement et délibérément adoptée 3 ans plus tard, le 23 décembre 1913, la veille de Noël, par un congrès sévèrement décimé par 43 voix contre 25. Woodrow Wilson, fraîchement élu président des États-Unis, a scellé le même jour le Federal Reserve Act et donc la création de la Banque centrale américaine Fed. Le droit de création monétaire américain et le pouvoir mondial pour le siècle à venir ont été transférés à 8 familles, dont les Warburg, les Rockefeller et les Morgan et leurs banques privées. Paul Moritz Warburg est devenu membre du premier conseil de surveillance de l'histoire de la Fed. Pendant la Première Guerre mondiale, il a été nommé vice-président du conseil de surveillance de la Réserve fédérale. En tant que membre du comité consultatif, Warburg est resté lié à la Banque centrale américaine jusqu'en 1926. En 1921, Paul Moritz Warburg est également devenu le président fondateur du Council on Foreign Relations, CFR, une plateforme privée d'influence internationale opérant dans l'ombre. Il a occupé le poste de directeur du CFR jusqu'à sa mort en 1932. Le colonel Elisha Garrison, un ami des présidents américains Roosevelt et Wilson, a certes désigné Warburg comme la force motrice de la création de la Fed, mais il a clairement mis en avant le baron Alfred Rothschild de Londres comme le maître à penser. La dynastie Rothschild avait déjà voulu à plusieurs reprises installer une banque centrale sous son contrôle aux États-Unis. Le fait est qu'en 1910, les États-Unis étaient pratiquement gouvernés depuis l'Angleterre, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Les 10 plus grandes sociétés de portefeuille bancaire aux États-Unis sont fermement détenues par certains établissements bancaires qui ont tous des succursales à Londres. Il s'agit des sociétés JP Morgan, Brown Brothers Harriman, Warburg, Kuhn Loeb et Henry Schroeder. En effet, chaque jour, le prix de l'or sur le marché mondial est fixé dans le bureau londonien de NM Rothschild & Company. Ils entretiennent tous des relations étroites avec la maison Rothschild, notamment par le biais du contrôle exercé par Rothschild sur les marchés monétaires internationaux via la manipulation du prix de l'or.
Quelle est la nature des pères fondateurs de la Fed ?
Nelson Aldrich était membre de la franc-maçonnerie. Il a notamment été administrateur des biens de la Grande Loge de Rhode Island. Le dollar américain est l'unité monétaire officielle des États-Unis. Le billet d'un dollar est en circulation sous sa forme actuelle depuis 1935. Un regard plus attentif révèle des faits étonnants. L'une des deux inscriptions au dos du billet de 1 dollar est « Novus Ordo Seclorum ». C'est du latin et cela signifie « un nouvel ordre des siècles ». Au-dessus, l'œil de la Providence se trouve au-dessus d'une pyramide en briques incomplète. En effet, ce qu'on appelle l'œil de la Providence est encore aujourd'hui une symbolique centrale dans les loges maçonniques. La pyramide égyptienne en briques est une référence à la société secrète des Illuminati. À propos, la pyramide a été ajoutée au billet d'un dollar en 1935 sous le président Franklin Roosevelt. Roosevelt était un membre très actif de la franc-maçonnerie et a reçu de nombreuses délégations maçonniques à la Maison-Blanche pendant ses années de présidence. Le chiffre romain qui figure tout en bas de la pyramide inachevée du billet de 1 dollar représente l'année 1776. Cependant, ce n'est pas l'année de la déclaration d'indépendance des États-Unis qui est honorée, mais la fondation de l'ordre maçonnique des Illuminati par Adam Weishaupt à Ingolstadt en 1776. Le symbole de la société secrète est la chouette de Minerve et, chose intéressante, sur le recto du billet de 1 dollar, derrière le chiffre 1, dans le coin droit, une minuscule chouette blanche apparaît. La nature manipulatrice de la franc-maçonnerie s'est révélée peu après sa création. Pendant la Première Guerre mondiale, la Fed a soutenu les grandes banques dans l'octroi de crédits à différentes nations belligérantes. De cette manière, elles sont devenues durablement dépendantes de la haute finance américaine, ce qui a fait de cette dernière le véritable vainqueur de la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain a été déclaré monnaie de référence mondiale. La Fed a ainsi obtenu la suprématie sur toutes les banques centrales et est ainsi devenue le véritable vainqueur de la Seconde Guerre mondiale.
Fondation de la Fed grâce au lien avec la politique.
Depuis des temps immémoriaux, les mariages ont toujours été motivés par l'accumulation de richesses et de pouvoir, comme lorsque John D. Rockefeller Jr., fils unique de John D. Rockefeller Sr. et homme le plus riche d'Amérique, a épousé Abby Aldrich, la fille unique de Nelson Aldrich, à l'automne 1901. Ce dernier était le chef de la majorité républicaine au Sénat américain, sans l'accord duquel aucune loi fédérale ne pouvait être adoptée. Il était si puissant que la presse l'appelait directeur général de la nation. Avec ce mariage, c'est-à-dire la fusion stratégiquement parfaite de l'argent et de la politique, la première pierre politique était posée pour l'introduction légale de la Federal Reserve Bank en 1913.
Quel est le rapport entre la Fed et le naufrage du Titanic ?
Le propriétaire de la White Star Line, une flotte de bateaux, et donc plus tard du Titanic, était depuis 1902 J.P. Morgan, ce même cofondateur et maître d'œuvre central de la Fed. Qu'il s'agisse du réseau ferroviaire, de l'électricité, du charbon, du télégraphe, il avait partout la main mise. La seule chose à laquelle il n'avait pas accès était l'acier de Carnegie et le pétrole de Rockefeller. Il était tellement puissant parce qu'il était le seul Américain à bénéficier de la confiance des financiers de Londres, Paris et Berlin. La banque Morgan & Company, située au 23 Wall Street, a été la clé de la révolution industrielle américaine des années 1900. Elle était prêteur, actionnaire et, à l'époque, banque centrale officieuse des États-Unis. J.P. Morgan faisait partie d'un cercle de banquiers criminels qui voulait créer le système de la réserve fédérale, la Fed, aux États-Unis. Lors du voyage inaugural de son luxueux paquebot Titanic, se trouvaient à bord des personnes très influentes et fortunées comme Benjamin Guggenheim, Isidore Strauss et d'autres grands industriels et banquiers, mais surtout John Jacob Astor. Il était à l'époque l'un des hommes les plus fortunés du monde. Ce groupe influent voulait empêcher la Fed et ainsi contrecarrer les plans stratégiques mondiaux à long terme des oligarques financiers. Astor et son cercle devaient donc être éliminés discrètement. Lorsque J.P. Morgan a délibérément fait couler le Titanic, l'équipage du Titanic a violemment empêché le sauvetage des Astor et de leurs alliés. Avec sa mort en 1912, l'opposition à la création de la Fed a été balayée par le naufrage délibéré du Titanic. En prévision, J.P. Morgan a annulé à la dernière minute sa participation au voyage et n'est pas monté à bord du Titanic.
Sortir de l'endettement total des nations, les dettes de crédit de la monnaie fiduciaire renvoyées au néant par une réduction de la dette.
Selon l'expert financier David Webb, le crash financier à venir est comme un jeu de Monopoly dans lequel tous les pions du plateau de jeu et tout l'argent sont ramenés à la banque par les principaux oligarques. Et puis ces messieurs suprêmes disent « Commençons une nouvelle partie, recommençons à la base, à savoir que nous avons tout et vous, vous n'avez rien. Alors voulez-vous nous emprunter quelque chose ?» Mais les nations qui croulent actuellement sous les dettes n'ont même pas besoin d'en arriver là, car il existe une solution. En effet, le narratif des oligarques financiers suprêmes « tout retourne à la banque » doit être remplacé par le nouveau discours mondial des nations, à savoir « Maintenant vient la réduction globale de la dette pour toutes les nations qui se sont laissées prendre au piège du prêt de monnaie fiduciaire sorti de nulle part. » C'est-à-dire l'annulation de la dette de tous les États-nations maltraités et pillés par le FMI, la Banque mondiale et les banques centrales, ainsi que la restitution de toutes les ressources saisies. Car de même que les crédits ont été accordés à partir de rien, ils doivent aussi disparaître dans le néant.
Conclusion.
L'oligarchie financière mondiale est aussi effrayante que le règne de terreur du magicien d'Oz. C'est-à-dire qu'elle se gonfle d'importance et se fait menaçante, effrayant le peuple. Mais si on regarde derrière le rideau, il n'y a rien. Les liens avec la franc-maçonnerie, le naufrage du Titanic, l'audace du système financier, etc., montrent que le principe de fonctionnement des oligarques financiers est la tromperie et la fraude. Et ce principe ne vit que de l'adhésion des crédules et des profiteurs. Sans ses adeptes, le règne de la terreur de l'oligarchie financière mondiale s'effondre comme un château de cartes. C'est pourquoi le dévoilement et la diffusion, ainsi que le développement de réseaux et la désobéissance civile, épaule contre épaule, sont des issues efficaces.